3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Un programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. La saga de films d'espionnage basée sur le personnage fictif de l'agent britannique 007, initialement apparu dans la série de livres d'Ian Fleming, verra le jour pour la première fois au cinéma en 1962. Albert Broccoli et Harry Saltzman coproduiront la plupart des films avec leur compagnie Eon Productions jusqu'en 1975, année où Broccoli en deviendra l'unique producteur. La seule exception, durant cette période, étant Thunderball, dont Broccoli et Saltzman deviendront producteurs exécutifs, laissant alors la place de producteur à Kevin McClory. À partir de 1984, Broccoli sera rejoint par son beau-fils, Michael Wilson, comme producteur et quittera en 1995, remplacé alors par sa fille Barbara, qui coproduira le reste de la franchise avec son beau-frère jusqu'au dernier film mettant en vedette l'acteur Daniel Craig en 1921, soit No Time to Die. La jeune femme avait commencé à travailler sur la franchise dans les domaines du marketing sur le film The Spy Who Loved Me en 1977, alors que Wilson fera ses débuts en 1972, ce dernier travaillant dans le département légal de la compagnie Eon Productions avant de transférer au poste de scénarisation. À travers la compagnie Danjag, qui sera en grande partie propriétaire de la série par l'intermédiaire d'Eon Productions, la famille Broccoli conservera sa copropriété avec les studios United Artists depuis le milieu des années 1970 jusqu'à son rachat des studios MGM en 1980. Puis, en mai 2021, Amazon fera l'acquisition des studios MGM pour plus de 8,45 milliards de dollars, devenant alors un nouveau partenaire pour la famille Broccoli-Wilson. Suite à la sortie du dernier film de la franchise « No Time to Die », une lutte se jouera en coulisses quant à l'avenir pour la franchise, Broccoli et Wilson souhaitant conserver l'aspect pur héros au cinéma du personnage, alors que de l'autre, les exécutifs de la compagnie Amazon désiraient faire fructifier de toutes les façons possibles l'avenir de l'agent secret, notamment via le streaming. Semblant incapable de s'entendre sur l'avenir de 007, Michael Wilson, alors âgé de 83 ans, annoncera qu'il prendra sa retraite pour se consacrer à diverses œuvres de charité ainsi qu'à sa passion pour la photographie. Cela forcera donc Barbara Broccoli à se retirer également de la tête de la franchise, la femme de 64 ans étant incapable de trouver un terrain d'entente avec les dirigeants d'Amazon et également ayant devant elle une pression ardue pour recréer le personnage de Bond suite au départ de l'acteur Daniel Craig et surtout le décès du personnage de Bond à la fin du film No Time to Die, une scène qui est aujourd'hui ironique puisqu'elle semble signer le changement de direction administratif de James Bond. Et donc, après des décennies à la tête de la franchise, la famille Broccoli cédera le contrôle complet de l'agent 007 à la direction d'Amazon MGM Studios pour un montant de plus d'un million de dollars. Un nouvel avenir se dessine donc pour l'agent secret de Sa Majesté, j'ai nommé Bond, James Bond. Donc, venez assister à la fin d'une époque avec les deux derniers films produits par une famille qui a su, au cours de plus de 6 décennies, nous présenter les aventures de l'agent secret du MI6 qui se termineront avec les films Spectre du réalisateur Sam Mendes et du film qui marquera la fin des aventures de ce personnage légendaire sous la bannière d'Eon Productions, No Time to Die, du réalisateur Cary Joji Fukunaga.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. This drive-in theater is radioactive. Now you can hear tonight's show on your AM car radio. Turn your ignition key to the accessory position. This will not drain your car battery. Now turn on your radio and zero in on the following AM station.
We hope you have a wonderful time. Come back soon.
Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
Get more out of life. Go out to a movie.
Vous n'aviez aucun pouvoir de décision. Aucun. Pourquoi Mexico? Que faisiez-vous là-bas?
J'avais grandement besoin de vacances.
Alors, James, qu'est-ce qui se passe? On dit que vous êtes fini.
Vous en dites quoi, vous?
J'en dis que vous n'en êtes qu'à vos débuts.
Magnifique, non? Elle monte à 100 en 3 secondes 2, et elle a plus d'un tour dans son sac.
J'ai une dernière chose à vous demander.
Qu'avez-vous derrière la tête?
Vous pouvez me faire disparaître? Dites-moi où il est.
Il est partout à la fois.
Si vous allez là-bas, vous passerez dans un monde qui ne connaît pas la pitié.
Vous protégez quelqu'un.
Laissez-moi, allez-vous-en!
Pourquoi je vous ferai confiance?
Parce qu'avec moi, au moins, vous avez des chances de rester en vie. Cette organisation, vous connaissez son nom?
Elle s'appelle Spectre.
Et savez-vous qui fait le lien entre tous ces gens?
Moi. Bienvenue, James. Mille fois vous avez croisé mon chemin, mais sans jamais me voir. Vous en avez mis du temps.
C'est vraiment ça que vous voulez? Vivre dans l'ombre, traquer, traquant les autres, et toujours seul.
C'est pas ça qui m'encombre l'esprit. C'était moi, James. L'auteur de tous vos malheurs.
Spectre, ou Spectre, est un drame d'espionnage qui a été distribué par les studios Sony Pictures le 26 octobre 2015 en Angleterre et le 6 novembre 2015 en Amérique du Nord. Ce film américano-britannique d'une durée de 148 minutes a coûté 250 millions de dollars à produire et a amassé plus de 880,7 millions de dollars à travers le monde entier. À la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène britannique Sam Mendes, lui qui avait réalisé les films Skyfall, American Beauty et Road to Perdition. Au poste de producteur, on y retrouve Barbara Dana Broccoli, cette productrice américaine qui avait produit les films GoldenEye, The Rhythm Section et Skyfall, ainsi que Michael Wilson, ce producteur américain qui avait produit les films License to Kill, The World is Not Enough et GoldenEye. Au poste de scénarisation, on y retrouve le scénariste américain John Logan, lui qui avait écrit les scénarios de Bats, Gladiator et Star Trek Nemesis. On y retrouve également Neil Purvis, ce scénariste britannique qui avait écrit les films Let Him Have It, Johnny English et la version de 2006 de Casino Royale. Robert Wade, ce scénariste britannique qui avait écrit les scénarios de Stoned, Return to Sender et Die Another Day. Et finalement, Jeremy Butterworth, ce scénariste britannique qui avait écrit les scénarios de Birthday Girl, Ford vs. Ferrari et Flag Day. Dans la distribution, eh bien, on y retrouve Daniel Craig, Christoph Waltz, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomi Harris, Dave Bautista, Andrew Scott, Rory Kinnear, Jasper Christensen, Monica Bellucci, Ralph Fiennes et Stephanie Sigmund. Un message d'outre-tombe lance un agent secret du MI6 sur la piste d'une organisation au pouvoir tentaculaire, alors que le nouveau supérieur de cet agent cherche à empêcher un programme de surveillance électronique à grande échelle de remplacer les services secrets britanniques. Suite au succès de Skyfall, les producteurs Michael Wilson et Barbara Broccoli désiraient fortement le retour du metteur en scène Sam Mendes, non seulement parce que le réalisateur avait été le premier à réaliser un Bond qui rapportera plus d'un milliard de dollars en salle, mais également parce que son film fut recouvert de prix et fut encensé par la critique mondiale. À leur grande tristesse, Mendes annoncera qu'il ne pouvait être de retour, ce dernier ayant d'autres engagements au niveau théâtral avec des pièces telles que Charlie and the Chocolate Factory et King Lear. Suite à l'annonce du départ de Mendes, le réalisateur Christopher Nolan sera sérieusement considéré pour occuper le poste de metteur en scène. Cependant, un accord sera finalement trouvé 4 mois plus tard avec Mendes, les producteurs acceptant de repousser la production du prochain Bond d'un an pour que le réalisateur puisse se concentrer sur ses activités théâtrales, Mendes devenant alors le premier réalisateur depuis le metteur en scène John Glenn à mettre en image 2 Bonds de suite. Les exécutifs de Sony Pictures Entertainment avaient accepté de fournir 25 % des coûts négatifs de Skyfall et de Spectre en échange de 25 % des bénéfices. En plus, les studios se devaient également de couvrir les frais de distribution pour la supervision de leur déploiement mondial. Lorsque le film sera annoncé en juin 2013, le budget n'était pas encore fixé, mais il était certain qu'il serait supérieur aux 210 millions de dollars de Skyfall en raison des tournages à l'étranger et des paiements plus importants pour Mendes et Craig. Afin de minimiser les coûts de production, les exécutifs de Sony Pictures envisageront de tourner 2 James Bond consécutifs, mais ce sera l'acteur Daniel Craig qui refusera cette idée en raison de leur ampleur. Ce sera alors le scénariste John Logan qui annoncera que le prochain film sera dans la continuité de Skyfall. Intitulé Spectre, ce scénario sera une histoire originale qui prendra tout de même ses sources de différentes œuvres de l'auteur Ian Fleming, notamment le personnage de Franz Oberhauser et de son père Hannes, ce dernier étant l'un des personnages secondaires de la nouvelle Octopussy. Mendez collaborera avec Logan sur l'élaboration du concept principal de l'intrigue, mais insatisfait de la version finale du script, les producteurs se tourneront alors vers les scénaristes Neil Purvis et Robert Wade, qui avaient travaillé sur les 5 films précédents de la franchise, afin de retravailler ce scénario. Malheureusement, en novembre 2014, les studios Sony Pictures seront la cible de pirates informatiques qui divulgueront des détails d'emails confidentiels échangés entre les dirigeants de Sony concernant plusieurs projets cinématographiques importants, dont ceux de ce 24e chapitre des aventures de l'agent 007. Parmi ces mémos figuraient plusieurs notes relatives à la production de Spectre, comprenant des difficultés à s'entendre sur un budget de production et détaillant les premières versions du scénario écrites par John Logan et surtout la frustration des exécutifs de Sony face à ce projet. Suite à cette attaque informatique, les producteurs seront contraints de réécrire l'intrigue et ce sera finalement le dramaturge britannique Jeff Butterworth, qui avait déjà contribué à Skyfall sans être crédité, qui sera chargé de peaufiner le nouveau scénario avec l'aide du réalisateur Sam Mendes et de l'acteur Daniel Craig. Pendant ce temps, en arrière-scène, Broccoli et Wilson résisteront aux arguments des exécutifs de Sony Pictures et de MGM Studios visant à réduire les cascades et les tournages en extérieur afin de réduire le budget. Les producteurs réussiront à obtenir des incitations fiscales et des commanditaires, leur permettant alors de négocier un budget final variant entre 250 et 275 millions de dollars. À l'occasion d'une conférence de presse tenue au studio Pinewood à Londres, Mendes dévoilera le titre du film ainsi que les acteurs principaux du prochain long-métrage et les lieux de tournage, la durée de production devant s'étirer à plus de 7 mois. Le réalisateur indiquera également que ce nouveau film ne devra compter sur plus de 1000 techniciens, faisant en sorte que cette production soit encore plus importante que celle de Skyfall. À la fin de l'entrevue, Daniel Craig sera cité à titre de coproducteur, une première pour l'acteur, considérant cela comme étant un point culminant de sa carrière, ce dernier obtenant plus de 39 millions de dollars en salaire. Pour la distribution, Ralph Fiennes, Naomi Harris, Ben Whishaw, Roy Kinnear et Jester Christensen reprendront à nouveau leurs rôles respectifs. Pour le rôle de la Bond Girl, les producteurs chercheront une actrice scandinave. Ce sera cependant l'actrice française Léa Seydoux qui sera choisie par Mendes. Ce dernier réécrivra le rôle de Madeleine Swann afin de correspondre à la nationalité de l'actrice. Pour la comédienne Judi Dench, cette dernière fera une apparition caméo, marquant ainsi sa dernière prestation officielle dans le rôle de M, 20 ans après ses débuts dans GoldenEye. À l'origine, ce sera l'acteur Gary Oldman qui sera approché pour le rôle de Blofeld, mais ce dernier n'était pas disposé à s'engager pour une production de 6 mois, se situant dans le monde entier. Ce sera donc le comédien Christopher Waltz qui sera choisi, forçant de nouveau le réalisateur à réécrire son scénario afin de donner plus de place au comédien ainsi qu'à son personnage. Pour le rôle de son homme de main, Mendes voulait introduire un méchant rappelant d'autres célèbres antagonistes de la franchise comme Oddjob dans Goldfinger ou Jaws dans The Spy Who Loved Me et Moonraker. Il leur fallait donc un acteur de grande taille au physique imposant et ce sera finalement le lutteur David Bautista qui obtiendra le poste. Monica Bellucci et l'actrice mexicaine Stephanie Segman seront choisies pour interpréter d'autres Bond Girls dans la production. Bellucci devenant l'actrice la plus âgée à incarner une Bond Girl dans la franchise, cette dernière étant âgée de plus de 50 ans. La production débutera le 6 décembre 2014 au studio Pinewood. Londres, l'Autriche, le Mexique, le Maroc et Rome, en Italie, seront confirmés comme autres lieux de tournage, le film étant principalement tourné sur pellicule ainsi qu'en numérique, contrairement à Skyfall, qui, lui, avait été tourné uniquement avec l'aide de caméras numériques. Devenu l'acteur le mieux payé de la franchise afin d'interpréter le rôle de 007, Craig, dont il s'agira ici de la 4e apparition dans la série, se blessera à 2 reprises durant le tournage, la première fois au genou lors du tournage d'une scène de combat en Autriche et la seconde fois en Italie alors qu'il se cognera violemment la tête à l'intérieur de sa Aston Martin DB10. Le tournage en Autriche, qui a eu lieu entre décembre 2014 et février 2015, sera temporairement interrompu à deux reprises, la première fois à cause de la blessure au genou de Craig, et plus tard par un accident impliquant un véhicule de tournage qui a vu trois membres de l'équipe de production blessés, dont un grièvement. De plus, alors que le tournage débutait à Londres, neuf véhicules de marque Range Rovers, préparés pour le tournage en Autriche, seront dérobés en Allemagne, la valeur totale des véhicules s'élevant à presque 1 million $. La police allemande ne réussira malheureusement pas à trouver des indices afin de résoudre son enquête. Pour le tournage de la poursuite automobile à Rome, cette dernière sera des plus complexes à réaliser, donnant de la difficulté à la production afin d'obtenir des autorisations pour tourner dans des lieux idéaux pour les cascades. La deuxième équipe de tournage utilisera un total de 8 Aston Martin et 7 Jaguar pour tourner la dite poursuite, les cascades, ne laissant aucune place à l'erreur, car les cascadeurs devaient rouler à plus de 170 km/h avec leur véhicule dans la ville de Rome, se devant d'éviter d'endommager des bâtiments ancestraux. D'ailleurs, la production dut faire face à l'opposition de divers groupes d'intérêts spéciaux ainsi que les autorités de la ville qui s'inquiétaient des dommages potentiels au site historique. Au final, la séquence de poursuite conduira à un record de destruction de véhicules dans Spectre, plus de 7 Aston Martin en tout, les dépenses de cette séquence étant estimées à plus de 48 millions de dollars à elle seule. La production étant terminée à Rome, l'équipe de tournage se déplacera au Mexique vers la fin mars afin de tourner la séquence d'ouverture du film, incluant le festival du Jour des morts filmé dans et autour de Zocalo et du quartier de Centro Histórico. À l'époque, aucun défilé comme celui du film n'avait eu lieu au Mexique, mais en raison de l'intérêt suscité par les producteurs de Spectre et de la volonté du gouvernement de promouvoir la culture mexicaine préhispanique, les autorités fédérales et locales décideront d'organiser à partir de 2016 un véritable défilé Dia de Muertos auquel assisteront plus de 250 000 personnes. Cette scène nécessitera plus de 10 squelettes géants, 250 000 fleurs en papier et plus de 1 500 figurants, ces derniers étant dupliqués à l'aide du numérique afin de donner l'impression de plus de 10 000 figurants se trouvant sur place. Après le tournage au Mexique et pendant une pause programmée, Craig fut transporté à New York pour subir une intervention chirurgicale mineure afin de soigner sa blessure au genou. Le tournage ne sera pas affecté par cela et celui-ci reprendra au studio Pinewood tel que prévu le 22 avril. Néanmoins, certaines parties de la scène d'introduction au Mexique furent réalisées à l'aide de cascadeurs, leur visage étant par la suite remplacé numériquement par celui de Craig. Puis, l'équipe de production se rendra au Maroc où une énorme tempête de sable s'est abattue lors du premier jour de tournage, interrompant la production durant tout un après-midi. Le siège de Spectre était situé à Gara Médouard, un cratère causé par l'érosion et n'étant ni d'origine volcanique ni d'impact. L'explosion de la base sera tournée devant les membres du Livre des records Guinness, celle-ci obtenant alors le record du monde pour la plus grande explosion de cascade d'un film de toute l'histoire du cinéma, cette dernière impliquant plus de 8 140 litres de kérosène et plus de 24 charges contenant chacune 1 kg d'explosifs puissants. Le prix du record Guinness sera par la suite remis au superviseur des effets spéciaux et des effets miniatures du film, Chris Carbolt, l'explosion ne durant que 7,5 secondes au final. Le combat entre Bond et X sera douloureux à tourner pour les deux acteurs, soit Craig et Bautista, les deux hommes s'étant mutuellement blessés pendant le tournage de l'affrontement. En effet, Craig cassera le nez de Bautista lorsqu'il toucha accidentellement le lutteur d'un coup de poing, alors que Bautista sera celui qui blessera Craig au genou après avoir projeté ce dernier contre un mur. Le tournage se terminera le 5 juillet 2015, après plus de 128 jours. Plus de 5 compagnies seront engagées afin de réaliser les effets visuels numériques du long-métrage, soit Industrial Light & Magic, Double Negative, Moving Picture Company, CineSight et Peerless. Une sixième entreprise, Framestore, sera engagée afin de s'occuper de la réalisation du générique d'introduction, le septième de la série, conçu par le technicien David Kleinman, qui nécessitera alors plus de 4 mois de travail. Le compositeur Thomas Newman sera de retour pour réaliser la musique du long métrage. Plutôt que de composer la musique une fois le film entré en post-production, Newman travaillera durant le tournage. Plus d'une centaine de minutes seront produites par le musicien. Ce sera le groupe anglais Radiohead qui se verra chargé d'écrire la chanson au titre. Ils soumettront alors à la chanson inédite « Men of War » écrite dans les années 1990. Malheureusement, pour les membres du groupe, cette dernière sera rejetée car elle n'avait pas été écrite pour le film et ne serait donc pas éligible à l'Oscar de la meilleure chanson originale. Radiohead enregistra par la suite une autre chanson, soit « Spectre », celle-ci étant également rejetée car elle était trop mélancolique. Ce sera donc en septembre 2015 que les dirigeants de Eon Production annonceront que le chanteur Sam Smith avait enregistré la chanson-thème du film, cette dernière s'intitulant « Writings on the Wall », chanson qui fut écrite en moins d'une demi-heure par le chanteur et son collaborateur habituel, Jimmy Napps. Malgré un acteur mitigé de la part des fans de la franchise, « Writings on the Wall » est devenue la première chanson-thème de James Bond à atteindre la première place du classement des singles britanniques et la deuxième à remporter l'Oscar de la meilleure chanson originale. La chanson rapportera également le Golden Globe de la meilleure chanson originale lors de la 73e cérémonie des Golden Globe Awards. « Spectre » amassera plus de 200,1 millions de dollars en Amérique du Nord, remportant plus de 70,4 millions de dollars durant son tout premier week-end. Plus de 680 millions additionnels seront amassés dans le reste du monde, faisant de ce film le deuxième long-métrage le plus lucratif de la franchise, tout juste derrière Skyfall, faisant un bénéfice net au final de plus de 98,4 millions de dollars en tenant compte des budgets de production, du marketing et de tout autre coût additionnel relié au long-métrage. Spectre sera le dernier film de James Bond vu par l'ancienne star ayant interprété l'agent 007, soit Sir Roger Moore, ce dernier décédant à son domicile de Crans, Montana, en Suisse, le 23 mai 2017, des suites d'un cancer du poumon et du foie. Du côté des points forts, eh bien, ce nouveau volet des aventures de James Bond cherche à ramener ce que nous avions aimé des premiers épisodes de la franchise tout en gardant l'aspect noir des plus récentes aventures de l'agent 007. La direction photographique et technique sont ici impeccables, la séquence d'introduction filmée dans une seule séquence étant tout simplement impressionnante et spectaculaire. Il en est de même pour la direction photo, Spectre étant un film beau à regarder. On retrouve ici quelque peu le style du Bond traditionnel, avec son humour, des gadgets et une base du vilain plus que gigantesque, avec un plan de domination d'un être qui semble innocent, mais qui est en réalité un véritable danger, tel ceux d'un des romans de Ian Fleming. Waltz donne ici une interprétation menaçante de ce vilain, dont la présentation est encore une fois d'une originalité visuelle de la part du réalisateur. Craig semble plus à l'aise ici, son jeu étant beaucoup plus léger que les films précédents, ce qui nous permet de ravoir un certain plaisir à regarder cette nouvelle aventure de l'agent 007. De plus, les personnages de M, Q et Miss Moneypenny sont utilisés de façon adéquate, les acteurs ayant une excellente chimie avec le comédien Daniel Craig. Finalement, la scène de combat entre Craig et Dave Bautista dans le train est remarquable, faisant un magnifique clin d'œil à From Russia With Love et Goldfinger, deux classiques de la dite franchise. Mais du côté des points faibles, malgré que les séquences d'action soient très bien filmées ici, celles-ci sont trop over the top, ce qui enlève quelque peu de la crédibilité à ces scènes. De plus, le film tombe à plat durant la dernière portion du film, plus spécifiquement la confrontation verbale entre Bond et Blofeld, l'ensemble devenant long et pénible, le scénario cherchant à faire le lien avec les aventures précédentes de l'ère Craig. La fin explosive tombe quelque peu à plat, l'explosion de la base dans le désert nous laissant quelque peu sur notre appétit et l'évasion de Bond étant beaucoup trop facile. Dans la réalité, il aurait été peut-être plus intéressant de changer la séquence du désert avec celle de Londres, ce qui aurait permis un dénouement plus typique d'un film de Bond. De plus, l'agent 007 a beaucoup trop de facilité à se débarrasser de ses ennemis. On dirait pratiquement qu'on assiste ici à un jeu vidéo, l'agent 007 étant tout simplement devenu un véritable Terminator. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur américain Thomas Newman qui réalise la trame sonore du film ici. Lui qui avait composé les trames sonores des films Phenomenon, Meet Joe Black, The Green Mile et Real Genius. On peut retrouver la trame sonore de Spectre sous l'étiquette Decca Records, un CD qui a été mis sur le marché le 6 novembre 2015.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
Now pay attention, 007. First, your new car.
You'll be using this Aston Martin DB5. Windscreen bulletproof. Smoke screen. Left and right front wing machine guns.
Oh, very good.
The ultimate in British engineering.
And I suppose that's completely inconspicuous.
There's just one thing I need.
You have a license to kill, not to break the traffic laws.
I wouldn't think of it.
I've missed you.
Your watch.
How strong is it?
Fairly strong. We haven't had the time to test it properly. Just be careful.
This is going to go brilliantly. You a 00?
2 years. I thought you two would get along.
Bellwether Martini.
Of course.
Shaken, not stirred. Excellent choice, Mr. Bond.
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it.
Thank you.
Child's play.
Totally wimpy.
Whoa. Shaken, not stirred.
Pepsi Max, full cola taste, no sugar.
Now, just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully, and come back soon.
We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show.
Tout le monde a un secret. Il est temps de s'intéresser au tien.
Le monde s'arme trop vite pour qu'on puisse suivre. Où est 007 ?
Aide-moi, mon frère. Y a qu'à toi que je peux confier ça.
Le monde a évolué. Commandant Bond.
Vous êtes 00 ?
Depuis 200. Alors restez sur votre fil. Si vous me barrez la route, je vous mets une balle dans le genou. Le bon genou, bien sûr.
Je savais que ça collerait entre vous.
Non ?
Bond. James Bond.
Alors, vous n'êtes pas mort ?
Q, vous m'avez manqué.
Il est la meilleure source dont dispose ce pays. Si vous sentez que vous perdez le contrôle,
je ne perdrai pas. Le contrôle.
James, tu as tout lâché pour elle.
Dès que son secret remontera à la surface, ce sera ton arrêt de mort.
Qu'est-ce que c'est ?
Tu ne veux pas savoir.
James Bond. Permis de tuer. Antécédent violent. Je croirais parler à mon double. Sauf que vos talents mourront avec votre corps. Les miens me survivront longtemps.
L'histoire n'est pas très indulgente avec les hommes qui se prennent pour Dieu.
Time to Die, ou Mourir peut attendre, est un drame d'espionnage qui a été distribué par les studios United Artists et Universal Pictures le 30 septembre 2021 en Angleterre et le 8 octobre 2021 sur le continent nord-américain. Ce film américano-britannique d'une durée de 163 minutes a coûté 243 millions de dollars à produire et a amassé 774,2 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Cary Joji Fukunaga, ce réalisateur qui a mis en scène les films Jane Eyre, Beast of No Nation et Sin Nombre, Au niveau de la production, on y retrouve la productrice américaine Barbara Dana Broccoli, elle qui avait produit les films GoldenEye, Nancy et Quantum of Solace, ainsi que le producteur américain Michael Wilson, lui qui avait produit les films A View to a Kill, Die Another Day et The Rhythm Section. Au poste de scénarisation, on y retrouve le scénariste américain John Logan, lui qui avait écrit le scénario de Any Given Sunday, The Last Samurai et Hugo. Neil Purvis, ce scénariste britannique qui avait écrit les films An American Werewolf in Paris et The World Is Not Enough. Cary Joji Fukunaga, ce scénariste américain qui avait écrit la version de 2017 de It, Sin Nombre et Beast of No Nation. Et finalement, Phoebe Waller-Bridge, cette scénariste américaine qui avait écrit des épisodes dans la série télé Crashing ainsi que la série télé Fleabag. Dans la distribution, on y retrouve Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomi Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz et Ralph Fiennes. Un agent secret britannique doit sortir d'une retraite de 5 ans à la demande d'un vieil ami pour l'aider à retrouver un scientifique kidnappé dont la dernière découverte est une arme fondée sur la reconnaissance d'un code génétique spécifique tombé entre les mains d'un dangereux mégalomane. Spectre mettait un terme au contrat de coproduction entre la compagnie Sony Pictures, Metro Goldwyn Mayer et Eon Productions. Ce sera donc en avril 2017 que Sony Pictures, Warner Bros., 20th Century Fox, Universal Pictures et Annapurna Pictures participeront à un appel d'offres afin de remporter les droits de distribution pour le prochain film de Bond et surtout la dernière apparition de l'acteur Daniel Craig dans le rôle, ce dernier ayant annoncé son départ à la fin du tournage précédent, épuisé mentalement et physiquement de jouer le rôle de 007. Après s'être fait offrir un montant de plus de 25 millions de dollars, plus une partie des recettes du prochain film, Craig confirmera alors sa présence pour une dernière fois. Du côté distribution, la compagnie MGM obtiendra les droits de télévision nord-américains et mondiaux par l'intermédiaire de sa branche de distribution United Artists Releasing. De son côté, Universal Pictures remportera la mise afin de devenir le prochain distributeur international et le détenteur mondial des droits pour les supports physiques domestiques, soit le DVD et le Blu-ray, et ce, par l'intermédiaire de sa filiale Universal Pictures Home Entertainment. Ce sera donc en mars 2017 que les scénaristes Neil Purvis et Robert Wade, qui avaient travaillé sur tous les films de James Bond depuis The World Is Not Enough, seront de nouveau approchés par les producteurs Barbara Broccoli et Michael J. Wilson afin d'écrire les nouvelles aventures de l'agent secret britannique. Alors que Purvis et Wade élaboreront l'histoire, le réalisateur Sam Mendes annoncera qu'il ne reviendrait pas à la mise en scène, alors que Christopher Nolan, Yann Demange, David Mackenzie et le réalisateur québécois Denis Villeneuve seront pressentis pour le poste de réalisateur, Villeneuve ne pouvant accepter en raison de ses engagements envers Doom. Ce sera finalement en février 2018 que le metteur en scène britannique Danny Boyle sera désigné pour le poste de réalisateur. Boyle, désirant que le scénariste John Hodge travaille sur le nouveau scénario basé sur une idée de Boyle, la version de Purvis et Wade étant alors abandonnée. Le projet de Hodge sera donc approuvé et une date de début de production sera confirmée pour décembre 2018. Boyle avait déjà été impliqué dans le monde de 007 précédemment. En effet, le réalisateur avait mis en scène une publicité qui sera présentée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres de 2012. Ce court-métrage mettait en scène l'acteur Daniel Craig dans le rôle de James Bond, aux côtés de la reine Elizabeth II. Dans le court-métrage, Bond se devait d'escorter la reine du palais de Buckingham au stade olympique. La reine acceptera de faire le commercial à condition qu'elle ait un dialogue dans la publicité, ce qu'acceptera alors le réalisateur. Lors de la séquence où Bond et la reine sautent en parachute dans le stade, ce sera le cascadeur Gary Donnelly qui doublera la reine, tandis que le cascadeur Mark Sutton doublera l'agent 007. La séquence sera une surprise pour plusieurs, y compris par certains membres de la famille de la reine qui n'avaient pas été mis au courant du projet, qui sera alors largement salué pour sa créativité et son humour. Ce sera donc une surprise lorsque Boyle et Hodge quitteront le projet en août 2018 en raison de différences créatives au niveau du scénario. Ce sera donc le réalisateur américain Cary Joji Fukunaga qui sera annoncé comme nouveau réalisateur en septembre 2018, devenant ainsi le tout premier Américain à réaliser un James Bond produit par la compagnie Eon Production et deviendra également le tout premier réalisateur de la franchise à recevoir un crédit d'écriture au niveau du scénario final d'un Bond. Suite à son embauche, Fukunaga engagera le directeur de la photographie Linus Sandgren pour sa nouvelle production. Purvis et Wade seront rappelés afin de débuter leur travail sur un nouveau scénario avec leur nouveau réalisateur. Paul Haggis, qui avait déjà travaillé sur Casino Royale, la version de 2006, ainsi que Quantum of Solace, se verra demander de réaliser une réécriture non créditée du nouveau script, tout comme le scénariste Scott Burns. Finalement, ce sera à la demande de Daniel Craig que Phoebe Waller-Bridge sera engagée pour peaufiner le scénario, devenant ainsi la deuxième femme créditée pour l'écriture d'un film de James Bond, après Joanna Hardwood, qui avait coécrit Dr. No et From Russia with Love. Daniel Craig avait proposé de tuer le personnage de Bond pour la première fois en 2006, après la première de Casino Royale, ce que Broccoli avait accepté de faire lorsque viendrait le temps du départ de l'acteur. Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Ben Whishaw, Naomi Harris, Christopher Waltz et Ralph Fiennes furent tous signés pour reprendre leur rôle respectif dans le film. La comédienne française Léa Seydoux reprendra le rôle de Madeleine Swann, faisant d'elle la toute première femme à apparaître comme Bond Girl dans deux films de James Bond consécutifs. Anna de Armas, qui obtiendra un salaire de plus de 70 000 $ pour son apparition ici, Dali Ben Salah, David Dencik, Larshana Lynch, Billy Magnussen et Rami Malek seront par la suite annoncés comme membres de la distribution. Fukunaga prendra également contact avec l'actrice Grace Jones, interprète de Mayday dans A View to a Kill en 1985, à qui il envisageait de confier le rôle d'une chef d'un gang local, mais renoncera finalement à cette idée lorsque Jones sera déçu que son rôle soit si petit dans le film. Après un budget prévu pour 250 millions de $, le long-métrage entra en production sous le titre provisoire de Bond 25 en mars 2019 à Nittedal, en Norvège, alors que la deuxième unité filmera certaines séquences du prologue sur un lac gelé durant plus de 5 jours. Le titre No Time to Die ne sera pas annoncé avant août 2019, les producteurs ayant du mal à trouver un titre qui ne révélerait rien de l'intrigue finale tout en restant compréhensible pour le public. Ce sera Barbara Broccoli qui trouvera le titre. L'équipe de production se déplacera ensuite en Jamaïque, où le tournage principal débutera le 18 avril 2019. Ce nouveau Bond sera également le premier de la franchise à comporter des séquences tournées avec des caméras IMAX 65 mm, Fukunaga et Sandgren insistant sur l'utilisation de caméras à pellicule de film plutôt que du numérique afin d'améliorer l'aspect visuel du long-métrage. Les lieux de tournage de cette nouvelle production comprenaient l'Italie, la Jamaïque, la Norvège, les îles Féroé et Londres, en plus des studios Pinewood. Le tournage au principal débutera officiellement en Jamaïque en avril 2019, endroit où Craig subira une blessure à la cheville, ce qui obligera l'acteur à de nouveau subir une intervention chirurgicale mineure, sa convalescence, durant plus de 2 semaines. Cette blessure forcera donc le report du tournage d'une séquence de poursuite se déroulant à La Havane, à Cuba, mais n'affectera nullement la date de sortie du long-métrage. Un autre incident surviendra en juin 2019, interrompant de nouveau la production lorsqu'une explosion contrôlée a endommagé les studios Pinewood et a laissé un membre de l'équipe avec des blessures mineures. La compagnie de véhicules Aston Martin fournira quelques véhicules pour le film, les modèles DB5, DBS Super Legera et Valhalla figurant dans la version finale du long-métrage. De plus, pour rendre possible le tournage de séquences où Bond file en moto dans les rues de Matera et prend appui sur une paroi verticale pour sauter, des milliers de litres de Coca-Cola seront déversés sur les rues pavées pour rendre le sol collant et réduire ainsi le risque de glissade. Pour la scène se situant dans la forêt, cette dernière sera tournée dans la forêt de Bottle Step, dans le Windsor Great Park. Après un tournage qui se déroulera particulièrement sans trop d'histoire, celui-ci se terminera le 25 octobre 2019 au studio Pinewood. D'autres prises de vue seront refaites à Pinewood Studio, tout juste avant les fêtes de Noël de 2019. Afin d'éviter les fuites de la conclusion, trois fins seront tournées et aucun membre de l'équipe de production ne sera au courant de la séquence choisie. Ce seront les entreprises Industrial Light & Magic, Framestore, DNEG et CineSight qui seront engagés pour réaliser les effets visuels numériques de No Time to Die, Charlie Noble étant le superviseur de tous les effets visuels du long-métrage. Dan Romer sera initialement annoncé comme compositeur de la musique du film après avoir travaillé avec Fukunaga sur Beast of No Nation et Maniac. Cependant, Romer quittera la production en raison de divergences créatives avec son réalisateur, ce qui forcera l'arrivée du compositeur Hans Zimmer en janvier 2020, la première fois de l'histoire de la franchise où un compositeur sera remplacé en post-production. Suite à cette annonce, la chanteuse Billie Eilish sera confirmée comme interprète de la chanson générique du film, son frère Phineas O'Connell étant co-auteur et producteur. À 18 ans, Eilish deviendra la plus jeune artiste à avoir enregistré une chanson générique dans la franchise. Malgré le retard du film dû à la pandémie de la COVID-19, la chanson « No Time to Die » sera nominée et remportera le Grammy Award de la meilleure chanson écrite pour un média visuel lors de la 63e édition de cet événement, ainsi que l'Oscar de la meilleure chanson. La chanson « Dans la ville endormie » de la chanteuse française Dalida, ainsi que la version du chanteur Louis Armstrong de « We have all the time in the world », composée par le compositeur John Barry et écrite par Al David, chanson thème qui est apparue à l'origine dans le film « On Her Majesty's Secret Service », seront également utilisées dans ce 25e film de la franchise. No Time to Die devait initialement sortir en novembre 2019, mais sera reporté en février 2020, puis en avril 2020, suite au départ du réalisateur Danny Boyle. Par la suite, la première en Chine prévue pour avril 2020 sera annulée en raison de l'apparition précoce de la COVID-19 dans le pays. La propagation mondiale du virus et la déclaration d'une pandémie par l'Organisation mondiale de la santé ont incité les producteurs à retarder la sortie du long-métrage, faisant de ce 25e chapitre des aventures de l'agent 007 le tout premier film majeur touché par la pandémie. MGM et Eon Productions annoncera donc le report de la sortie du film au 12 novembre 2020 au Royaume-Uni et au 25 novembre 2020 aux États-Unis, les exécutifs des deux compagnies désirant s'assurer d'une solide performance sur tous les marchés internationaux. En octobre 2020, No Time to Die sera de nouveau reporté au 2 avril 2021, une décision qui coûtera plus de 50 millions de dollars en frais de marketing additionnels, estimant que les pertes au box-office mondial auraient pu dépasser les 300 millions de dollars si le film était resté dans sa case originale. Ce sera finalement le 28 septembre 2021 qu'aura lieu l'avant-première mondiale du film au Royal Albert Hall de Londres. Le film sortira par la suite en salle le 30 septembre 2021 au Royaume-Uni et le 8 octobre 2021 aux États-Unis. Le film sortira également la même semaine en Corée du Sud et la semaine suivante au Brésil, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et en Russie. La Chine et l'Australie verront la sortie du film plus tard en octobre et novembre 2021. Le long-métrage sera également projeté au Festival du film de Zurich le même jour que sa première mondiale et deviendra ainsi le tout premier Bond à être diffusé dans la sélection officielle d'un festival. Le film d'espionnage rapportera plus de 160,9 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et plus de 613,3 millions de dollars au niveau international. En raison des coûts combinés de production et de promotion d'au moins 350 millions de dollars, il sera estimé que le film se devait de remporter au moins 800 millions de dollars dans le monde entier afin d'atteindre le seuil de rentabilité, ce qui ne sera malheureusement pas le cas. Malgré cela, No Time to Die sera le premier film depuis le début de la pandémie à dépasser les 100 millions de dollars lors d'une sortie à l'étranger sans le marché chinois. La sous-performance de ces nouvelles aventures de Bond seront liées à la durée de 163 minutes du film, limitant du coup le nombre de projections en salle. Un autre facteur sera la disponibilité du film sur les services de téléchargement numérique 31 jours seulement après sa sortie en salle, un délai relativement rapide pour un film de cette taille. No Time to Die sera également réédité en IMAX pour sa sortie en janvier 2022 dans le cadre du 60e anniversaire de la série de films Bond. Lors de sa sortie sur support numérique, le film vendra plus de 1,5 million d'unités Blu-ray et DVD, atteignant ainsi la 8e position pour le plus grand nombre de ventes du format numérique en 2021. Lors de la 94e cérémonie des Oscars, No Time to Die sera nominé dans la catégorie Meilleur son et meilleurs effets visuels et remportera donc le prix de la meilleure chanson originale, la 3e fois de la franchise où cet honneur sera remporté après Skyfall et Spectre. Le film obtiendra également 5 nominations au British Academy Film Award, 2 au Critics' Choice Movie Awards et 1 Golden Globe Award. Au total, le film amassera plus de 24 prix sur un total de 64 nominations. Durant les années qui suivront, aucun projet ne sera mis sur la table, les exécutifs d'Amazon Prime ayant racheté la compagnie MGM et les producteurs d'Eon Production n'arrivant pas à s'entendre sur l'avenir de l'agent secret 007. Finalement épuisés de tous ces conflits et désirant se retirer, les deux producteurs, Michael Wilson et Barbara Broccoli, décideront de vendre les droits et par le fait même le contrôle créatif total de la franchise James Bond à Amazon Prime, faisant de No Time to Die le tout dernier film de la série à être produit sous la tutelle d'Albert R. Broccoli, Michael J. Wilson et Barbara Broccoli. L'avenir de Bond ne sera jamais aussi incertain qu'à ce point dans son existence. Du côté des points forts, eh bien, ce 5e et ultime James Bond de l'ère Daniel Craig possède une bonne mise en scène de son réalisateur et surtout une interprétation très émotive de son acteur vedette, Daniel Craig, ce dernier faisant ses adieux ici à la franchise. La première heure du film est excellente, mélangeant des séquences d'action enlevantes et bien filmées et un humour amené par la parfaite chimie entre Craig et le reste de la distribution régulière. Du côté de Anna de Armas, celle-ci est la découverte ici, l'actrice surclassant totalement Craig tant au niveau humour que physique, le personnage de cette dernière nous donnant le goût d'en voir plus. Cependant, du côté des points faibles, la grosse faiblesse de ce film est sa longueur interminable et son aspect mélodramatique qui nous donne plus l'impression de voir un téléroman qu'un film de Bond. Là où Mendes avait réussi à ramener la magie du personnage, Fukunaga semble manquer d'inspiration, se concentrant plus sur des séquences de bavardage que sur l'action, ce qui aurait pu faire oublier la longue durée de son film. Le vilain, interprété ici par Rami Malek, est très faible, ce dernier ne présentant pas vraiment une réelle menace pour notre personnage. Un autre aspect faible du film est la présence de ce nouvel agent féminin 007 qui ne sert absolument à rien ici, autre que de tester comment le public réagirait si Bond était une femme. Au final, ce personnage ne prend jamais sa place et ne réalise que des missions simplistes, ne faisant que laisser la place à notre héros qui, lui, se tape tous les moments les plus dangereux du film. De plus, tout le monde s'inquiète pour Bond, mais se fout complètement de ce qui peut arriver à ce nouvel agent féminin 007. De plus, la fin laisse un goût amer dans la bouche des fans de la série, la mort de Bond étant totalement inutile ici. À vrai dire, ce n'est pas Bond qui aurait dû rester sur l'île à la fin, mais bien notre agent 007 féminin qui était l'agent en service, Bond venant tout juste de sortir de sa retraite. De plus, je trouve de mauvais goût l'idée de tuer James Bond, d'autant plus que l'on voit ici un personnage qui commet une sorte de suicide, abandonnant tout espoir, alors qu'on est habitué de voir Bond en combattant, un geste allant totalement à l'encontre de ce qu'était l'agent 007 depuis ses tout débuts. J'ai trouvé l'idée de tuer un personnage iconique tel que Bond durant la pandémie de la COVID-19 quelque peu déplacée, un moment où la population terrestre qui a été touchée par une longue isolation causée par la pandémie aurait eu besoin d'avoir un divertissement et un retour aux sources de notre héros et non de le voir mourir d'une façon aussi ordinaire. No Time to Die est malheureusement un gros letdown, les brocolis méritant beaucoup mieux comme dernier film en carrière. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur allemand Hans Zimmer qui s'occupe de la trame sonore ici, ce dernier ayant réalisé les trames sonores des films Gladiator, The Last Samurai, Pirates of the Caribbean et The Dark Knight. On peut retrouver la trame sonore de No Time to Die sur CD, une trame sonore qui a été mise sur le marché le 1er octobre 2021 sous l'étiquette Decca Records. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Spectre a été coté 4 par Mediafilm. J'y vais également avec une cote 4. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma a coté le film très indicatif. J'y vais également pour une cote 14 ans pour des scènes de violence. Du côté de No Time to Die, Mediafilm a coté le film 4. Moi, j'y vais avec un 5. Beaucoup trop long et beaucoup trop mélodramatique, ce film de James Bond, avec une dernière heure qui est, je dirais même une dernière heure et demie qui est longue et pénible. L'âge et le contenu, eh bien, la régie du cinéma a coté le film très indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour des scènes de violence. Au niveau de la disponibilité en DVD, en Blu-ray, eh bien, Spectre ainsi que No Time to Die sont disponibles en DVD, en Blu-ray, ainsi qu'en 4K, que ce soit en français et en anglais, donc des œuvres qu'il vous est possible de rajouter à votre collection, surtout si vous êtes un fan de James Bond.
Ladies and gentlemen, our next attraction!
Coming soon to a theater near you.
Girl's been murdered. Mr. Harrison's daughter is missing. And now at the house where she lives, the other girls are getting obscene phone calls.
Yeah, what I've done is I've tapped this phone so that when it rings, it'll ring at the station house too.
Mrs. Mack, why don't you open the present we got you?
It's a Delta Alpha Kappa tradition. We have to open Billy's present first.
Billy Lenz, the guy that used to live in his house?
Find out why he killed his family.
Christmas is here, bringing good cheer to young and old.
There's someone in the house.
Black Christmas, Friday the 13th of December.
I can't believe how easy it was to cook. I could have been making ham all my life.
There's someone in the house.
He's not gonna stop until he kills us. We have to get out of here.
Black Christmas, rated PG-13.
Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.
Yeah.